Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle émission de Quoi de neuf ? J'ai perdu mes notes tout de suite, désolée, juste là. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans LP de nuit. LP de nuit, c'est la référence à écouter pour être au plus proche du lycée. Vous retrouverez ici nos internes et leurs chroniques pour le plus grand plaisir de vos oreilles. Et n'hésitez pas à nous retrouver en ligne sur le site de Delft. Ta FM ou bien sur notre page YouTube Je bafouille, c'est le début. Pour cette dernière émission, une majorité de notre équipe est toujours en révision pour le bac ou bien en train d'attendre fiévreusement les résultats Parcoursup qui tombent ce soir. Nous sommes donc en compagnie de Léandro pour voyager au travers des étoiles depuis son siège, de Gabriel avec un voyage jusqu'en Asie et enfin de Néo qui nous emmène en Deux-Sèvres ce soir. Et maintenant que je vous ai présenté notre équipe de chroniqueurs pro, il est l'heure de lancer le générique. Nice. Vu les yeux que tu m'as fait, Néo, je suppose que je me suis plantée.
Absolument.
Excuse-moi.
C'est pas
grave. Tu nous parles de quoi du coup ce soir ?
Alors ce soir, on va parler de black metal.
Ok, aucun rapport avec le deux sœurs finalement.
Ça vient plutôt de Norvège.
Ok, et tu as un invité aussi avec toi ?
Absolument, Aurel, avec moi ici présent.
On a aussi Gabriel. Gabriel, on voyage en Asie ce soir, c'est ça ?
Oui, c'est ça. On va voyager dans une petite ville du Japon, donc directement pour visiter un musée.
Et bonjour à toi aussi, Léandro. On va où ou plutôt quand ce soir ?
Bonjour à tous. Et ce soir, on part au commencement de l'univers.
Merci beaucoup et on y va. Bon, eh ben, je vous propose qu'on attaque tout de suite avec le voyage le plus proche malgré tout, la Norvège chez le moins loin. Et avec notre musicien de la bande, c'est à toi Néo.
Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, pour cette dernière émission, j'aimerais vous parler d'un style musical aussi mal compris que décrié, souvent accusé de tous les maux alors qu'il incarne en réalité une forme d'expression artistique brute, viscérale et spirituelle, le black metal. Né dans les brumes glaciales de la Scandinavie, le black metal est un cri primal, une déchirure sonore, un rejet du conformisme. Avec ses voix écorchées, ses guitares tranchantes et ses blast beats aussi rapides qu'un troupeau de yaks ou Red Bull, il représente l'extrême le plus sombre du spectre musical. Mais au-delà de l'image sulfureuse, maquillage façon panda vénère, clous longs comme des antennes 5G et forêts embrunées habitées par des chèvres mécontentes, le black metal est une quête, une recherche de vérité, une immersion dans la noirceur humaine. Jusque-là, tout va bien. Et puis, il y a eu un déclic, un détail, un tintement, une cloche. Non pas une cloche d'église en feu sur une pochette d'album suédois, non. Une cloche à vache. Et là, tout a basculé. Car en cherchant à comprendre l'impact du black metal sur l'être humain, je me suis demandé, les vaches, elles en pensent quoi ? Je me suis donc rendu à Pougnérisson, village de Sévrien célèbre pour deux choses, ses contes délirants et ses cloches à vache hautement spirituelles. Là-bas, j'ai rencontré des habitants excessivement concernés par le sujet. Voici donc le témoignage d'Aurel, habitant de Pougnérisson depuis sa plus tendre enfance. Alors toi Aurel, d'après toi, quelle est l'influence des cloches à vache sur l'industrie musicale à Pougnérisson ?
Bonjour, donc déjà il faut savoir que moi j'ai grandi avec, c'est-à-dire que c'est un village avec beaucoup de bovins. On a environ, je crois, 5000 vaches pour 300 habitants, c'est dire.
Ce qui n'est pas négligeable.
Effectivement. Et donc sur ce rôle-là des cloches sur la musique, c'est-à-dire qu'avec le vent, se produisent toutes sortes de sons constamment, chaque journée, chaque nuit, et ça fait se sentir concernés tous nos habitants, tous nos 360 habitants en 2025, par cette branche de la musique qui est le black metal.
Le black metal, absolument, oui.
Et voilà.
Eh bien, merci beaucoup Aurel pour ton témoignage, ce fut très intéressant. J'ai également pu rencontrer Claudine, une autre habitante de Pougnérisson, qui a également témoigné pour moi. Elle m'a expliqué que certaines de ces vaches, exposées par erreur à du Dimmu Borgir pendant la traite, ont également littéralement doublé leur production laitière. Coïncidence, je ne crois pas. Selon une étude que j'ai totalement inventée mais qui sonne très sérieuse, 78% des bovins exposés au black metal norvégien expriment un meilleur équilibre émotionnel, notamment grâce au sentiment d'appartenance à un chaos cosmique structuré. Il paraît même qu'une vache, prénommée Goudronette, a commencé à se maquiller en corpse paint avec de la boue. On l'a surprise plusieurs fois à mugir sur un rythme ternaire en regardant la lune. Le vétérinaire hésite entre crise mystique ou début de carrière solo. Pardon.
C'est la dernière, c'est normal, c'est compliqué,
c'est
ça rend émotionnel,
c'est l'émotion.
C'est dur.
Alors attention, tout le black metal ne plaît pas aux vaches. Le black atmosphérique les apaise. L'euro black les stresse, le symphonique les rend un peu snob. Quant au poste black vegan anticapitaliste, elle trouve ça prétentieux, mais la basse est sympa. Alors voilà, ce devrait être une chronique sérieuse sur le black metal, mais quelque part, entre double et pédale et chant de luzerne, j'ai découvert l'univers fascinant de la vache mélomane. Et je me dis qu'au fond, si une vache peut apprécier l'intensité d'un riff norvégien, alors peut-être que le métal est bien plus universel qu'on ne l'imagine. Peut-être qu'un jour au Hellfest, on aura un enclos VIP pour ruminants. Peut-être qu'une cloche à vache accordée deviendra une nouvelle tendance noise avant-gardiste. Et peut-être, oui peut-être, que Goudronet sortira enfin son premier EP solo. Merci à vous, merci aux vaches. Et n'oubliez pas, dans le métal comme dans la vie, il faut savoir quand secouer la tête et quand écouter les vaches, donner leur avis. Afin de finir en beauté, je vous laisse en compagnie d'une magnifique chanson de black metal, La Vache de Rikun et Musique Maestro.
Jeter la chanson de la vache camargaise, celle qui saute les barrières et qui fait monter les enchères. 10 fois de plus à la cocarde, à la une, à la deux, 1, 2, 5 et 8.
La vache, quelle pute cette vache, la vache elle est barjo, ouais.
C'était La Vache de Rikun.
Merci beaucoup pour ce choix de musique audacieux.
Avec plaisir.
Et juste avant qu'on enchaîne, peut-être, Aurel, t'avais l'air d'avoir envie d'intervenir en tant qu'habitant et représentant de Pougnérisson.
Exactement. En fait, en tant que citoyen, j'avais un conseil à adresser à tous nos chers auditeurs. Je vous conseille sincèrement de faire écouter de la musique à vos bovins. Alors là, dit comme ça, ça peut sonner un petit peu surprenant, mais on a constaté chez nous que ça avait vraiment un effet positif. C'est-à-dire qu'on fait écouter via des enceintes murales dans les prairies en fait, où se trouvent nos vaches, et ça a augmenté la productivité largement. C'est un simple conseil, n'hésitez pas, vous générerez plus de lait et elles seront plus productives.
Pougnérisson, grande ville avant-gardiste.
Exactement.
Et je vous propose qu'on écoute un peu de pas de vraie musique, mais peut-être une musique d'un autre style. Gabriel, on met quoi ?
Alors aujourd'hui, on va jouer Playground Love, donc du groupe qui s'appelle R.
Thank you. Merci beaucoup Gabriel, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'on vient d'écouter ?
Alors on vient d'écouter Playground Love du groupe qui s'appelle R.
Et on part un peu plus loin, juste quelques kilomètres de Pougnérisson, un poil après la Norvège, puisqu'on va jusqu'au Japon pour découvrir un super bâtiment. Vas-y toujours à toi Gabriel.
Ben oui, aujourd'hui je vous emmène beaucoup plus loin car on va visiter le musée d'Hiroshige. Et donc, vous allez me dire, mais comment es-tu arrivé à aller aussi loin que le Japon ? Eh bien, tout simplement, comme vous le savez peut-être, en ce moment, on a donc toutes nos écoles qui nous envoient des mails, etc., etc. Et en fait, si j'ai fait une chronique toute l'année sur l'architecture, eh bien, c'est parce que aussi, je postule dans des écoles d'architecture pour étudier tout simplement tous ces bâtiments, toutes ces choses-là en études. Et il se trouve que pour entrer dans ces écoles, il faut un peu se renseigner, découvrir ces sujets-là. Et la première chose qui m'a marqué, c'est donc l'architecture au Japon. Ils sont très forts, notamment dans l'utilisation du bois. Et j'ai découvert un architecte qui s'appelle donc Kengo Kuma, qui est notre architecte du jour, qui lui a fabriqué et a conçu le musée d'Hiroshige. Hiroshige, vous allez me dire, c'est qui ? Vous ne connaissez peut-être pas. Eh bien, Hiroshige, c'est un peintre du japonais qui, lui, a peint de nombreux tableaux assez connus. On pense peut-être même à, par exemple, l'averse du soir sur le Grand Pont, que vous connaissez peut-être. Il faut s'imaginer donc un pont en premier plan, avec une averse qui vient le couper d'un point de vue transversal, et de nombreux japonais qui marchent sur le pont en se protégeant la tête avec leurs vêtements. Et donc, il a eu comme projet de fabriquer un musée à Hiroshige. Donc, pour le dédier ce musée, ça a été fait dans le département de Toshigi. Et il faut savoir que ce musée a donc été construit en l'année 2000. Et ce musée, c'était quoi le projet derrière ? En fait, l'architecte a pensé à utiliser le bois régional. Donc il faut savoir que la région est très connue pour son bois de cryptomère et une forêt qui est à la même essence donc tout autour de la ville. Et donc il a eu ce projet de faire une architecture dite naturelle, donc qui s'inspire vraiment des espaces autour. Et c'est pour ça qu'il a réutilisé ce bois. Mais le problème, c'est qu'avec les normes actuelles, c'est très compliqué d'utiliser un bois pour faire un bâtiment, notamment à cause des normes incendies. Et donc ça a été un vrai défi pour lui de vouloir transmettre cette idée de Hiroshige, donc du bois traditionnel, de ce Japon traditionnel, tout en alliant avec les problèmes modernes des normes, etc. Donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il a eu la chance de rencontrer un habitant qui lui a proposé une technique qui n'avait pas été développée dans des laboratoires. C'était une technique en fait qui consistait à mettre directement un liquide sur le bois pour le rendre inifugé, enfin qui résiste au feu, quoi. Et il se trouve que il n'avait jamais essayé, et il a fait ce pari-là d'essayer en laboratoire, et si jamais ça ne marchait pas, il devait complètement revoir tout son modèle. Et il se trouve qu'il a eu une grande chance, car en fait cet habitant qui lui a conseillé de faire ceci, en fait ça a parfaitement marché, et il se trouve que du coup il a pu utiliser donc un bois inifugé pour l'ensemble de son bâtiment. Et donc son but, c'était vraiment de produire un bâtiment qui passe de la nature à l'artifice. Car dans son livre, et même au cours de sa vie, Kengo Kuma a souvent défendu une architecture plus naturelle. Il sépare l'architecture en deux choses. La production, qui est donc plutôt ce qu'on va mettre, les étapes de fabrication, et la consommation, qui va être un peu le regard, la représentation. Et lui, il dit aujourd'hui qu'on est plus dans la représentation plutôt que dans la construction et la fabrication. Les gens voient le bâtiment fini, ils ne voient pas toute la démarche derrière, la réflexion, les matériaux, la réflexion de l'architecte. Et donc, lui, il met souvent en valeur les artisans, et c'est pour ça qu'il a fait ce choix de ce bois local, et qu'on peut voir que le bâtiment, en fait, est un ensemble de lamelles de bois, donc parallèles, qui vont former le bâtiment et qui sont séparés de très petites lignes. Et donc on a un effet un peu comme l'averse qu'avait fait le peintre Hiroshige à l'époque pour revoir le bâtiment. Et l'intérieur du musée, donc, c'est un grand espace qu'il faut s'imaginer, donc une salle immense, un peu, on a un toit donc, en triangle, excusez-moi, et cet espace est très ouvert, donc il n'y a pas de mur particulièrement, il y a juste du coup des murs en papier, des cloisons en papier traditionnel japonais. Mais il y a eu encore une fois des problèmes avec le papier traditionnel, parce qu'on lui a dit, mais oui, mais si tu fais un musée, et le papier, les enfants, enfin, ils vont l'abîmer, quoi. C'est, avec le temps, c'est pas bien, etc. Et donc, il a eu, malheureusement, pas le choix, mais il a mis un film microplastique entre les deux papiers pour garder l'aspect traditionnel du papier et le protéger, donc voilà. Donc, il a toujours décidé d'allier un peu la modernité, mais malgré tout, de rester dans une certaine tradition. Et ce qui était le plus fou dans ce projet, et c'est pour ça que je l'ai choisi pour cette dernière chronique, c'est que ce projet, il met avant tout en avant la nature, le déjà-là. En fait, il se trouve que dans son projet, il aurait pu faire un grand musée grandiose de ce grand peintre japonais et décider de faire vraiment un projet immense. Mais en fait, il a décidé de se fondre dans le décor. Il faut savoir que c'est un bâtiment qui ne va pas être très grand. Il me semble, selon les dimensions, qu'on était sur 2,40 m de haut, donc ce qui n'est pas très grand du tout. Alors qu'il aurait pu faire un musée sur plusieurs étages. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, il a pris la mesure des bâtiments aux alentours pour qu'ils se fondent dans le décor. Parce que derrière, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une colline avec un sanctuaire. Et donc, il a voulu continuer à mettre en avant le sanctuaire traditionnel japonais plutôt que de mettre en avant son musée, pour rester dans l'optique et la pensée du peintre. Donc, c'est pour ça que je vous ai voulu parler de ce bâtiment, parce que c'est un bâtiment qui est assez rare. Il se trouve que même des grands architectes comme Ken Okuma ont beaucoup de projets dans des grandes villes comme Tokyo, où ils n'ont pas le temps de se poser. Et là, la recherche avec un artisan local qui lui a fait découvrir une nouvelle technique, avec ce musée qui s'inspire des peintures, on a vraiment affaire à une architecture naturelle qui est vraiment novatrice. Et c'est pour ça aussi que je vous conseille ce livre, L'architecture naturelle de Ken Okuma, qui en fait où il présente ses différents projets et qui est vraiment très enrichissant, je trouve, pour repenser un peu nos différents bâtiments à l'avenir. Voilà. Merci de m'avoir écouté tout au long de l'année. C'était Gabriel.
Merci beaucoup, Gabriel. Pour Hiroshige, dont tu nous en as parlé, l'une de ses œuvres aussi très 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 connue pour nos auditeurs, c'est l'œuvre de la Grande Vague de Kanagawa qui a été reprise de toutes les façons possibles et inimaginables. Oui. Donc si vous voulez vous faire un peu une idée de ce que vous pourrez retrouver dans ce musée, vous pourrez retrouver tout ça. Merci encore une fois. Et pour enchaîner, Néo, Gabriel et Aurel, je vous propose qu'on s'installe tranquillement, bien tout au fond de nos sièges, pour écouter Léandro nous emmener au bout de notre histoire. Qu'est-ce que t'en dis, Léandro ?
Eh bien, c'est parti. Bonsoir à toutes et à tous, je suis Léandro et bienvenue dans les Récits du Cosmos, une chronique sur l'astronomie et tout ce qui entoure. Ce soir, pour clôturer notre voyage parmi les étoiles, je vous propose de revenir à l'origine de tout. À l'instant où le temps lui-même a commencé à s'écouler, le Big Bang. Avant le Soleil, avant les étoiles, avant les galaxies, il n'y avait rien. Du moins, rien de ce que nous connaissons aujourd'hui. Pas de lumière, pas de matière, pas de son. Seulement un vide apparent, dans lequel sommeillait tout le potentiel de l'univers. Il y a environ 13,8 milliards d'années, tout ce qui existe aujourd'hui était connu dans un point infiniment petit, dense et chaud. Ce n'est pas une explosion comme on pourrait l'imaginer, mais plutôt une expansion soudaine et violente de l'espace lui-même. En une fraction de seconde, ce minuscule point s'est mis à grandir à une vitesse vertigineuse, donnant naissance à l'espace, au temps, à la matière, à l'énergie. C'est l'instant zéro de notre réalité. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, et même ce que nous ne voyons pas, en est issu. Dans les toutes premières minutes, l'univers est un bouillonnement d'énergie et de particules élémentaires. Des protons, des neutrons, des électrons. Puis, peu à peu, ces éléments s'assemblent pour former les premiers noyaux d'hydrogène et d'hélium. C'est la nucléosynthèse primordiale. L'univers continue ensuite de se dilater, de se refroidir. Il faudra attendre 380 000 ans pour que les électrons se combinent avec les noyaux et forment des atomes. La lumière, jusqu'à la piéger, peut enfin circuler librement. C'est ce qu'on appelle la recombinaison. Cette lumière, nous pouvons encore la détecter aujourd'hui. On l'appelle le fond diffus cosmologique, une sorte d'écho lumineux, vestige fossile de ce tout premier souffle d'existence. Des millions d'années passent, les premiers nuages d'hydrogène s'effondrent sur eux-mêmes sous l'effet de la gravité, donnant naissance aux premières étoiles. Ces étoiles, à leur tour, fusionnent les éléments légers pour en créer de plus lourds, carbone, oxygène, fer. Et quand elles meurent dans d'immenses explosions, elles éparpillent ces éléments dans le cosmos. Ainsi naissent les galaxies, les nébuleuses, les systèmes solaires. Notre Soleil, dont nous avons parlé la dernière fois, n'est qu'une étoile parmi tant d'autres, née bien après ce début tumultueux. Mais ce Big Bang, ce n'est pas seulement une théorie, c'est une histoire que l'univers nous raconte à travers ses vestiges, ses cicatrices et ses lois. Et pourtant, il reste encore des mystères, de grandes questions non résolues. Par exemple, de quoi est composée la majeure partie de l'univers? Car la matière que nous voyons, les étoiles, les planètes, les êtres vivants, ne représente qu'une infime partie de la totalité. Le reste serait composé de matière noire et d'énergie noire, deux énigmes encore non élucidées. La matière noire, qui n'est pas la même chose qu'un trou noir, ne brille pas, ne réfléchit pas la lumière, mais agit par sa gravité. Nous savons qu'elle est là, sans vraiment savoir ce qu'elle est. Les civilisations anciennes, bien qu'elles n'aient pas eu accès à notre savoir scientifique, pressentaient déjà une origine. Chez les hindous, l'univers naît du souffle du dieu Brahma. Les mayas croyaient que le monde avait connu plusieurs créations et destructions. Les grecs parlaient du chaos originel, d'où tout est sorti. Dans la mythologie nordique, c'est du vide glacé et de la chaleur naissante que jaillit le premier être vivant. Les Dogons du Mali, quant à eux, racontaient l'histoire d'une étoile invisible appelée Potolo, ancêtre de tout. Toutes ces visions sont des tentatives humaines de comprendre ce que la science commence à révéler, que l'univers a une histoire, un commencement, une trajectoire. Au-delà des chiffres, des données et des observations, le Big Bang nous invite à une réflexion bien plus vaste, celle de notre place dans l'univers. Ce moment originel bouleverse nos idées sur le temps, l'espace et même sur le sens de notre existence. Jusqu'il y a peu, beaucoup imaginaient un cosmos immuable, éternel, sans commencement ni fin. Le Big Bang a fait voler en éclats cette vision. Il nous rappelle que tout ce que nous connaissons, les galaxies, les étoiles, la Terre, la vie, a une essence, un début précis dans le temps. Cela donne une dimension unique à notre réalité. Nous sommes des témoins d'un événement unique, l'émergence du temps lui-même. Cette idée questionne aussi notre rapport au temps et à l'éphémère. Nous sommes des êtres éphémères dans un univers en expansion, qui s'étire et se transforme sans cesse. Chaque instant est précieux, car il fait partie d'une histoire qui a commencé il y a des milliards d'années et qui, peut-être, continue au-delà de ce que nous pouvons imaginer sur le plan philosophique. Le Big Bang pousse à la contemplation et à l'humilité. Nous ne sommes pas au centre d'un univers figé autour de nous, mais une infime partie d'un tout immense, en perpétuel devenir. Pourtant, paradoxalement, nous sommes aussi le cosmos qui s'observe lui-même, grâce à la conscience et à la curiosité humaine. Enfin, cette origine cosmique donne aussi une source d'émerveillement et d'espoir. Elle rappelle que, malgré notre petitesse, nous participons à une aventure gigantesque, celle de la vie dans l'univers. Chaque étoile, chaque atome de notre corps porte en lui cette histoire profonde. Et cette histoire, c'est la nôtre aussi. Et si nous nous tournons vers l'avenir, ce Big Bang n'est pas une fin, mais un début. L'univers continue de s'étendre, les galaxies s'éloignent les unes des autres, emportées par le tissu cosmique en mouvement. Peut-être un jour ralentira-t-il, peut-être s'effondrera-t-il, peut-être grandira-t-il pour toujours. Nous l'ignorons encore. Mais ce que nous savons, c'est que chaque atome de notre corps vient d'une étoile, que ces étoiles viennent, elles aussi, du Big Bang. Et en un sens, nous sommes faits de poussière d'étoiles et de souffle originel. Alors, la prochaine fois que vous regarderez le ciel, souvenez-vous que tout ce que vous voyez, tout ce que vous êtes, est né d'une étincelle primordiale, une explosion de lumière et de potentiel, il y a bien longtemps. Et que dans chaque battement de cœur, il y a encore un écho du Big Bang. Et n'oubliez pas qu'une journée sans rire est une journée de perdu, alors souriez. C'était Leandro, merci de nous avoir suivis tout au long de cette émission. À une prochaine, enfin, je l'espère, pour plus de récits du cosmos.
Je me perds toujours trop loin dans tes récits, Leandro. Merci beaucoup de nous avoir raconté cette histoire. C'était avec un grand plaisir. Est-ce que tu nous présentes une petite musique avant qu'on aille vers la fin? Non, pardon. Oh, excuse-moi, je me suis trompée de personne.
Ah, pardon.
Nous présentes une petite musique, du coup, ouais. Avant qu'on se laisse.
Après cette longue histoire, et en plus, je suis allé plus loin dans la description, donc c'est encore plus facile de se perdre. et du coup, maintenant, on va faire une petite écoute musicale. Et ce soir, je vous présente Hysteria, une chanson du groupe britannique Muse. Elle se distingue par sa ligne de basse puissante et entraînante, devenue emblématique. Le morceau mêle rock alternatif et énergie brute, avec des influences de hard rock et de musique progressive. Les paroles expriment une forme d'obsession amoureuse intense, presque douloureuse, traduite par la tension musicale croissante et les envolées vocales de Matthew Bellamy. Hysteria de Muse.
Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'on est en train d'écouter, Léandro ?
C'était Hysteria de Muse.
Merci beaucoup, Léandro. J'ai perdu ma souris. Et oui, les méandres du direct. Excusez-nous, très chers auditeurs, très chères auditrices. Et c'est sur cela que l'on se quitte. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette émission de LP de nuit. N'hésitez pas à nous retrouver sur le site et sur la page YouTube de Delta FM. Merci à Néo. Merci à Gabriel. Pardon, vas-y Néo.
Avec grand plaisir et merci de m'avoir écouté.
Merci à Gabriel.
Toujours autant de plaisir d'être accompagné avec vous, en plus c'est super.
Et merci à toi Léandro.
Il n'y a pas de quoi.
Et enfin, merci à toi Aurel de t'être joint à nous.
Et merci à vous.
Ainsi que Chloé et tous les autres qui n'ont pas pu venir cette dernière émission.
C'était ce qui allait arriver. Merci à vous, mais merci aussi à Antoine, à Ariane, à Marius et à Chloé de nous avoir appris des choses, cultivées et émerveillées tout au long de cette année. Et aussi de nous avoir fait rire. On vous souhaite un bon courage et un bon voyage pour les années à venir.
Et je le répète encore une fois, et n'oubliez pas qu'une journée sans rire est une journée de perdue, alors souriez.
Merci beaucoup. Et j'avais même pas remarqué que tu portais un t-shirt inspiré justement de l'artiste dont nous a parlé, Gabriel.
C'est une coïncidence absolue, on ne s'est pas du tout concerté.
Mais c'est très beau. Et on se retrouve l'année prochaine avec ceux qui le voudront à 18h sur Delta FM 90.2. C'était Lola pour LP de nuit. À la prochaine.